Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter la rubrique L'Indonésie en couleur, qui sera continuée avec la mise au point. La rubrique suivante, comme tous les jours, nous allons présenter le magazine culturel et ensuite apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons de Keroncong. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La technologie financière bénéfique pour l'humanité. L'ambassade d'Indonésie s'est forcée la subvention pour les étudiants indonésiens en Égypte. Les industries de l'Indonésie et de la Chine ont convenu l'investissement de 1,63 milliard dollars à Morowali. La Chine s'est intéressée à développer une zone industrielle à Kuala Tanjung. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a distribué des milliers de navires pour la pêche. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La technologie financière est l'une des formes d'application de la technologie de l'information dans le secteur financier. Le président de l'Institut de la démocratisation et de la socialisation de la technologie, Habibi Center, M. Ilham Habibi, a déclaré dans la discussion sur la technologie financière récemment à Jakarta que la majorité des Indonésiens possèdent un téléphone mobile qui devrait donner des avantages importants pour soutenir le type de paiement par l'application de la technologie.
Pentingnya fintech ini memang kelihatan karena ini insyaallah mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahannya.
Nous pouvons voir l'importance de la technologie financière. Nous espérons qu'il peut surmonter un problème lié à l'inclusion financière. Un tiers de citoyens indonésiens a un compte, la plupart n'a pas eu, mais nous pouvons dire que tous les gens ont des téléphones cellulaires. La pénétration du téléphone mobile est plus d'un compte bancaire. Nous cherchons quelque chose en utilisant la technologie mobile et utilisons la technologie de l'information pour traiter le problème de l'inclusion financière. Monsieur Ilham Habibi a également déclaré que la technologie financière donnait la facilité aux personnes indonésiennes de faire la transaction financière, telle que le paiement en toute sécurité, bon marché et approprié. Ils n'ont pas besoin d'utiliser le paiement au comptant. La technologie financière a de nombreux types, tels que le démarrage des paiements, les emprunts, la planification financière, l'investissement de détail, le financement, le transfert de fonds et aussi les recherches financières. Le gouvernement indonésien, représenté par le ministre des Affaires religieuses, a fait don de dortoir de l'Indonésie au Caire à l'Université Al-Azhar. L'attaché de l'éducation de l'ambassade d'Indonésie au Caire, M. Ousmane Shihab, a affirmé sur la base de l'accord, les étudiants indonésiens peuvent utiliser ou occuper le dortoir à partir de l'année scolaire 2017-2018. Selon lui, la partie Al-Azhar ne peut pas supporter tous les frais de dortoir Alors, elle demande à l'occupant de payer le coût d'environ 50 dollars américains par mois par personne. Ceci est une question discutée par beaucoup d'étudiants indonésiens en Égypte. Par conséquent, l'ambassade d'Indonésie au Caire s'efforcera à obtenir les fonds de subvention à la fois du gouvernement et privé. Je continuerai à approcher pour que l'année prochaine, de sorte que l'année prochaine, la bourse a commencé à être inscrite au budget. Une fois, je souhaite qu'il y ait des fonds de dotation appartenant à Al-Azhar, mais il était spécifique pour le financement public et nos étudiants. J'espère, inshallah, les riches, les philanthropes en Indonésie ont contribué ou être un parent d'accueil à quelques étudiants. Selon Ousmane Shihab, Al-Azhar a donné un quota de 600 étudiants de l'Indonésie et 600 étudiants de l'Égypte pour occuper le dortoir. L'Indonésie et la Chine ont convenu d'investir 1,63 milliard de dollars américains à Morowali pour soutenir le développement des zones industrielles en dehors de Java. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, dans un communiqué de presse reçu à Jakarta dimanche. Cette coopération est également capable d'encourager le développement équitable et le bien-être en Indonésie. Cet engagement est réalisé par la signature du protocole d'accord entre le groupe de Tsingshan et le groupe de Delong avec PT Indonesia Morowali Industrial Park. Tous les trois coopèrent dans le développement de l'usine d'acier au carbone dans la zone industrielle de Morowali, Sulawesi Central, avec une capacité de 3,5 millions de tonnes par an et l'investissement total de 980 millions de dollars américains. Selon le ministre Erlangga, cette coopération est l'un suivi de la réunion bilatérale entre le président indonésien Joko Widodo et son homologue chinois Xi Jinping lié à l'augmentation de la coopération économique entre l'Indonésie et la Chine dans le forum de Ceinture et de la Route pour la coopération internationale tenue à Pékin en Chine en mai 2017. La signature du protocole d'accord a été faite lors de la mise en œuvre du forum de la coopération sino-indonésienne. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'une des unités des entreprises chinoises, à savoir China Harbor, a exprimé son intérêt à développer une zone industrielle à Kuala Tanjung, dans le nord de Sumatra. La direction générale du ministère de l'Industrie pour la résilience et le développement international de l'accès industriel, M. Haryanto, a déclaré que CCCC a exprimé son intérêt lorsque la délégation indonésienne a assisté au forum de coopération Chine-Indonésie en Chine. Haryanto a déclaré à Jakarta dimanche que CCCC a admis que l'Indonésie établit le partenaire stratégique potentiel pour eux, notamment dans le domaine des projets d'infrastructure comme la centrale électrique, le pont et la voie ferrée. Il a espéré que cette entreprise pouvait participer dans la coopération du développement de la zone industrielle hors de Java et capable d'attirer des unités d'affaires pour investir au secteur manufacturier en Indonésie. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a l'intention de distribuer 1086 navires de pêche aux pêcheurs en Indonésie. L'aide sous forme de navires est l'effort du ministre de la Marine et de la pêche, Mme Susi Pujastuti, pour augmenter la capture des poissons de pêcheurs indonésiens. L'autre fonctionnaire du ministère de la Marine et de la pêche, M. Sharif Wijaya, a déclaré dimanche à Jakarta que le navire serait adapté aux zones de pêche, cela veut dire avant que le navire soit reçu, le pêcheur testera le navire. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Favorable et défavorable sur 8 heures à étudier à l'école ». Lundi 10 mai 2017, le ministre indonésien de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir Effendi, a déclaré que le gouvernement allait bientôt mettre en œuvre la politique de 8 heures d'étudier ou full day school avec 5 jours d'école durant l'année scolaire 2017-2018. Cette politique est la mise en œuvre du renforcement du programme d'éducation de caractère qui se concentre sur 5 valeurs principales telles que religieuse, nationaliste, coopération mutuelle, indépendante et l'intégrité. Ce programme n'est pas encore relié, mais il provoque des avantages et inconvénients ainsi que l'inquiétude du public. Parmi les inconvénients, disent n'est pas tous les parents des élèves travaillent toute la journée, notamment pour les personnes vivant dans des régions éloignées. La plupart d'entre eux travaillent comme les agriculteurs ou les pêcheurs. Jusqu'à présent, dans les activités quotidiennes, ils interagissent avec les enfants. Avec la mise en œuvre de la politique scolaire de la journée, on inquiète d'éliminer la quantité d'interaction entre les parents et les enfants. Alors que les pros disent que le programme de 8 heures d'études avec 5 jours d'école sera mis en œuvre par le gouvernement pour l'année scolaire 2017-2018, a de nombreux effets positifs et peu effets négatifs. 8 heures comme le processus d'apprentissage de l'étudiant inclut une variété d'activités supplémentaires menées par les étudiants après les activités à l'école. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Muhajir, qui a initié la politique, a déclaré que beaucoup de gens comprennent mal le concept de 8 heures à l'école. Cela ne signifie pas que les élèves ont des cours pendant 8 heures. Selon Muhajir, dans le processus d'apprentissage de 8 heures, les élèves reçoivent des leçons du manuel, mais aussi de recevoir une éducation de caractère. le transfert des connaissances des manuels est seulement 30%, alors que 60 jusqu'à 70% seront remplis avec l'éducation de caractère. Il y a quelques caractères qui veulent être formés, entre autres l'honnêteté, inflexible, tolérant et la coopération. Le président Joko Widodo avait demandé au ministre de l'Éducation de réétudier le plan d'étudier à l'école de 8 heures par jour après avoir attendu l'agitation parmi le peuple. Chaque nouvelle politique provoquera des avantages et des inconvénients. Toutes les parties doivent voir clairement le plan politique avant d'exprimer des opinions. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 19 juin 1944, la bataille de la mer des Philippines. La bataille de la mer des Philippines est une bataille importante dans la Seconde Guerre mondiale. La bataille navale a eu lieu entre les États-Unis et le Japon du 19 juin jusqu'au 20 juin 1944, près des îles Mariannes. Cette bataille est devenue une défaite majeure du Japon, qui ont perdu 3 porte-avions et environ 600 avions pendant 2 jours. Cela se produit parce que l'avion impérial japonais sont vieux et mal formé. Après cette bataille, la marine japonaise a été presque entièrement détruite. La victoire américaine dans la bataille de la mer des Philippines a ouvert l'occasion d'attaquer Iwo Jima. Le 19 juin 1961, la déclaration de l'indépendance du Koweït de la Grande-Bretagne. Dans les années 1900, le Koweït est devenu une partie de l'Empire turc. Pour réaliser et de répondre aux souhaits du peuple turc, le chef de Koweït, Moubarak, a signé un traité avec la Grande-Bretagne en 1899 qui établit l'État de Koweït comme l'État indépendant sous la protection britannique. Selon l'accord, le Royaume-Uni a le contrôle sur la politique étrangère du Koweït et le Koweït reçoit la protection de subventions annuelles du Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a violé l'accord quand ils ont déclaré le Koweït un membre à part entière du Royaume-Uni. En juin 1961, le Koweït est devenu État indépendant et ainsi la protection britannique sur le Koweït se termine. Le 19 juin 2008, John Ario Catelli est mort à Jakarta. Il est l'ancien vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR. Il a été membre du Parlement de 1992 jusqu'en 1997. Auparavant, il était servi en tant que directeur général de la géologie et des ressources minérales du ministère des Mines et de l'Énergie de 1984 jusqu'à 1989. En plus d'une carrière dans les domaines législatifs et du gouvernement, John Catelli a également été recteur adjoint de l'Institut technologique de Bandung et le doyen du département de la technologie des minéraux de l'Institut technologique de Bandung. Il a écrit environ 11 livres et 250 articles. Son expertise dans le domaine de géologie est très respectée dans le monde international. John Catelli était président de la Société géologique de l'Asie du Sud-Est et le membre de la Société nationale géographie. Il a reçu le prix Mahaputra, la médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite du gouvernement français. Plusieurs prix ont également été obtenus du gouvernement du Royaume des Pays-Bas et la Suède, y compris la Russie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers lecteurs, voici donc la mise au point et pour le titre, le gouvernement lance le 15e paquet de politique économique. Le gouvernement d'Indonésie lance le 15e paquet politique économique. Cela a été annoncé par le ministre coordinateur chargé de l'économie, Darmin Nasution, accompagné par le secrétaire du cabinet Pramono Anung et le ministre des Transports Budi Karya Sumadi au bureau présidentiel Jakarta jeudi 15 juin 2017. Le 15e paquet de politique économique met l'accent sur l'amélioration du système logistique national pour accélérer le développement des entreprises et la compétitivité des fournisseurs de services logistiques nationaux. Dans son exposé, le ministre Darmin Nasution a relevé plusieurs points importants dans le 15e paquet de politique économique, entre autres, offrant des occasions d'améliorer le rôle et l'échelle des activités commerciales. Il a également souligné que cela se faisait en offrant des opportunités d'affaires pour le transport et l'assurance nationale dans la réalisation de biens d'importation et d'exportation, ainsi que pour l'augmentation des activités du chantier naval et la maintenance des navires dans le pays. Le programme de politique économique offre également la facilité de faire des affaires et la réduction des coûts pour le fournisseur national de services logistiques. La politique inclut également, entre autres, la réduction des coûts opérationnels des services de transport, l'élimination des exigences excessives en matière de licence sur le transport de marchandises, la réduction de la charge des coûts pour les fournisseurs de services logistiques nationaux, le coût d'investissement des entreprises de port maritime, la standardisation des documents de flux de biens domestiques, ainsi que le développement d'un centre de distribution régional. Faciliter l'approvisionnement de certains navires et fournir le mécanisme de remboursement des coûts de sécurité des conteneurs. Le ministre Darmin Nasution a déclaré que le 15e paquet politique économique comprend également le renforcement des institutions et de l'autorité de l'Indonésie, guichet unique national, INSW. Il considère que cela se fait en assurant la fonction de l'indépendance au corps INSW pour développer le système électronique de services et la surveillance des exportations, d'importations, des douanes et des ports dans toute l'Indonésie, y compris la supervision des activités d'importation-exportation qui ont le potentiel pour devenir le commerce illégal. En outre, la construction d'une seule gestion des risques pour la circulation fluide des biens et en diminuant le temps de séjour. Le ministre Darmin Nasution a expliqué la politique de renforcement est de mettre INSW comme l'autorité compétente dans l'intégration du guichet unique de l'ASEAN, ainsi que pour assurer la surveillance de l'accord de libre-échange FTA. En outre, le 15e paquet de politique économique comprend également la simplification du système commercial en créant une équipe commerciale d'importation-exportation pour réduire le nombre de violations. Pendant ce temps, la Banque mondiale se félicite des efforts déployés par le gouvernement indonésien pour réduire le coût logistique dans le cadre de son 15e paquet de la politique économique et pour évaluer comme une forme de grand encouragement pour l'économie si elle peut être mise en œuvre correctement. Le directeur de la Banque mondiale pour l'Indonésie, Rodrigo A. Chavez, a déclaré lors du lancement du rapport économique trimestriel de l'Indonésie à Jakarta, jeudi le 15 juin, que la réduction des coûts de la logistique stimulera la croissance. Il considérait les coûts de la logistique en Indonésie comme un obstacle majeur à l'efficacité de la croissance, comme tenu l'Indonésie utilise environ 24% du produit intérieur brut en logistique. Pendant ce temps, la Malaisie dépense 8% du PIB et Singapour est plus faible. Rodrigo a déclaré que la congestion était une forme de problème logistique. Si cela peut être réduit, ce sera un gros essor pour l'économie nationale. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
La technologie financière est l'une des formes d'application de la technologie de l'information
dans le secteur financier. Le président de l'Institut de la démocratisation et de la socialisation de la technologie, Habibi Center, M. Ilham Habibi, a déclaré dans la discussion sur la technologie financière récemment à Jakarta que la majorité des Indonésiens possède un téléphone mobile qui devrait donner des avantages importants pour soutenir le type de paiement par l'application de la technologie.
Pentingnya fintech ini memang kelihatan karena ini insyaallah mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahannya.
Nous pouvons voir l'importance de la technologie financière. Nous espérons qu'il peut surmonter un problème lié à l'inclusion financière. Un tiers de citoyens indonésiens a un compte, la plupart n'a pas eu, mais nous pouvons dire que tous les gens ont des téléphones cellulaires. La pénétration du téléphone mobile et plus d'un compte bancaire, nous cherchons quelque chose en utilisant la technologie mobile et utilisent la technologie de l'information pour traiter le problème de l'inclusion financière. M. Ilham Habibi a également déclaré que la technologie financière donnait la facilité aux personnes indonésiennes de faire la transaction financière, telle que le paiement en toute sécurité, bon marché et approprié. Ils n'ont pas besoin d'utiliser le paiement au comptant. La technologie financière a de nombreux types, tels que le démarrage des paiements, les emprunts, la planification financière, l'investissement de détail, le financement, le transfert de fonds et aussi les recherches financières. Le gouvernement indonésien, représenté par le ministre des Affaires religieuses, a fait don de dortoirs de l'Indonésie au Caire à l'Université Al-Azhar. L'attaché de l'éducation de l'ambassade d'Indonésie au Caire, M. Usman Shihab, a affirmé sur la base de l'accord, les étudiants indonésiens peuvent utiliser ou occuper le dortoir à partir de l'année scolaire 2017-2018. Selon lui, la partie Al-Azhar ne peut pas supporter tous les frais de dortoir, alors elle demande à l'occupant de payer le coût d'environ 50 dollars américains par mois par personne. Ceci est une question discutée par beaucoup d'étudiants indonésiens en Égypte. Par conséquent, l'ambassade d'Indonésie au Caire s'efforcera à obtenir les fonds de subvention à la fois du gouvernement et privé. Je continuerai à approcher pour que l'année prochaine, de sorte que l'année prochaine, la bourse a commencé à être inscrite au budget. Une fois, je souhaite qu'il y ait des fonds de dotation appartenant à Al-Azhar, mais il était spécifique pour le financement public et nos étudiants. J'espère, inshallah, les riches, les philanthropes en Indonésie ont contribué ou être un parent d'accueil à quelques étudiants. Selon Usman Shihab, Al-Azhar a donné un quota de 600 étudiants de l'Indonésie et 600 étudiants de l'Égypte pour occuper le dortoir. L'Indonésie et la Chine ont convenu d'investir 1,63 milliard de dollars américains à Morowali pour soutenir le développement des zones industrielles en dehors de Java. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, dans un communiqué de presse reçu à Jakarta dimanche. Cette coopération est également capable d'encourager le développement équitable et le bien-être en Indonésie. Cet engagement est réalisé par la signature du protocole d'accord entre le groupe de Tsingshan et le groupe de Delong avec PT Indonesia Morowali Industrial Park. Tous les trois coopèrent dans le développement de l'usine d'acier au carbone dans la zone industrielle de Morowali, Sulawesi Central, avec une capacité de 3,5 millions de tonnes par an et l'investissement total de 980 millions de dollars américains. Selon le ministre Erlangga, cette coopération est l'un suivi de la réunion bilatérale entre le président indonésien Joko Widodo et son homologue chinois Xi Jinping liée à l'augmentation de la coopération économique entre l'Indonésie et la Chine dans le forum de Ceinture et de la Route pour la coopération internationale tenue à Pékin en Chine en mai 2017. La signature du protocole d'accord a été faite lors de la mise en œuvre du Forum de la coopération sino-indonésienne. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'une des unités des entreprises chinoises, à savoir China Harbour, a exprimé son intérêt à développer une zone industrielle à Kuala Tanjung, dans le nord de Sumatra. La direction générale du ministère de l'Industrie pour la résilience et le développement international de l'accès industriel, M. Haryanto, a déclaré que CCCC a exprimé son intérêt lorsque la délégation indonésienne a assisté au forum de coopération Chine-Indonésie en Chine. Haryanto a déclaré à Jakarta dimanche que CCCC a admis que l'Indonésie établit le partenaire stratégique potentiel pour eux, notamment dans le domaine des projets d'infrastructure comme la centrale électrique, le pont et la voie ferrée. Il espérait que cette entreprise pouvait participer dans la coopération de développement de la zone industrielle hors de Java et capable d'attirer des unités d'affaires pour investir au secteur manufacturier en Indonésie. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a l'intention de distribuer 1086 navires de pêche aux pêcheurs en Indonésie. L'aide sous forme de navires et l'effort du ministre de la Marine et de la Pêche, Mme Susi Pujastuti, pour augmenter la capture des poissons de pêcheurs indonésiens. L'autre fonctionnaire du ministère de la Marine et de la Pêche, M. Sharif Wijaya, a déclaré dimanche à Jakarta que le navire serait adapté aux zones de pêche. Cela veut dire avant que le navire soit reçu, le pêcheur testera le navire. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons l'une des alimentations typiques de Bali. Alors, restez avec nous, La Voix d'Indonésie, le service international de Radio République Indonésia. Outre les zones cultes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, le tourisme culinaire devient une attraction qui est difficile à éviter par les touristes sans exception au mois de Ramadan comme cette fois. Parce qu'il y a certains aliments typiques qui apparaissent lors de Ramadan comme satay susu de la province de Bali. La nourriture halal devient souvent un plat supplémentaire pour l'iftar. Chers auditeurs, comme son nom l'indique, satay susu, la matière première de cette nourriture est le mamelon de vache. La viande de la tétine de vache est coupée en petits morceaux. Ensuite, il est bouillé et grillé avec un assaisonnement spécial. Son assaisonnement est différent de satay en général qui utilise la sauce d'arachide et de soja. L'assaisonnement de satay susu provient de la farine de riz mélangée au lait de coco, les épices telles que le galanga camphrey, le piment rouge, le poivre de Cayenne et l'ail et à un peu d'épices. Serviteurs, vous pouvez trouver satay susu au village de Java. Le village de Java est un thème pour le village à l'entour de la mosquée de Baitul Rahma à Denpasar. Nommé le village de Java parce que la plupart des gens qui vivent dans le village sont des immigrants de l'île de Java. Presque les gens de ce village sont musulmans. La mosquée Baitul Rahma est située sur Jalan Ahmad Yani, Dauh Puri Kaja, le village de Wonosari, le nord de Denpasar, Bali. Satay susu qui a une texture mouleuse et une saveur épicée est très délicieux dans chaque bouchée. Il peut être prouvé par de nombreux amateurs culinaires de l'extérieur qui cherchent la nourriture au mois de Ramadan. Son prix est assez bon marché, seulement 1000 rupiah jusqu'à 2000 rupiah par pièce. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Satay susu, l'alimentation typique de Bali. Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre mission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet aujourd'hui est du hôtel, soit en langue française, à l'hôtel. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Di hotel. Di hotel. En français, à l'hôtel. Selamat pagi. Selamat pagi. En français, bonjour. Mau. Mau. En français, vouloir. Berenang. Berenang. En français, nager. Kolam renang. Kolam renang. En français, piscine. Di lantai berapa? Di lantai berapa? En français, à quel étage? Lantai delapan. Lantai delapan. En français, huitième étage. Tersedia. Tersedia. En français, disponible. Handuk. Handuk. En français, serviette. Area. Area. En français, zone. Pusat kebugaran. Pusat kebugaran. En français, centre de remise en forme. Tamu. Tamu. En français, invité. Tidak perlu. Tidak perlu. En français, pas besoin. Membayar. Membayar. En français, payer. Maaf. Maaf. En français, désolé. Makan pagi. Makan pagi. En français, petit déjeuner. Jam berapa? Jam berapa? En français, à quelle heure? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. En français, à 10 heures. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Di hotel », soit en langue française « À l'hôtel ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre l'employé de hôtel A et Rose B. A. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Bonjour, puis-je vous aider? B. Saya mau berenang. Saya mau berenang. En français, je voulais nager. B. Kolam renang di lantai berapa? Kolam renang di lantai berapa? En français, à quel étage est-ce que la piscine? A. Kolam renang ada di lantai 8. Kolam renang ada di lantai 8. En français, la piscine est au 8e étage. A. Anda bisa menggunakan lift ini. Anda bisa menggunakan lift ini. En français, vous pouvez utiliser cet ascenseur. B. Apakah di kolam renang tersedia handuk? Apakah di kolam renang tersedia handuk? En français, qu'est-ce que des serviettes sont disponibles à la piscine? A. Ya, di sana sudah tersedia handuk. Ya, di sana sudah tersedia handuk. En français, oui, il y a déjà fourni des serviettes. A. Selain itu, di area kolam renang juga ada pusat kebugaran. Selain itu, di area kolam renang juga ada pusat kebugaran. En français, en outre, dans la zone de la piscine, il y a un centre de remise en forme. B. Berapa biaya menggunakan pusat kebugaran? Berapa biaya menggunakan pusat kebugaran? En français, qu'est-ce que ça coûte d'utiliser le centre de remise en forme? A. Karena Anda tamu di hotel ini, Anda tidak perlu membayar. Je répète, karena Anda tamu di hotel ini, Anda tidak perlu membayar. En français, parce que vous êtes l'invité de cet hôtel, vous n'avez pas besoin de payer. B. Oh, baiklah. Oh, baiklah. En français. Oh, d'accord. B. Maaf, di hotel ini makan pagi sampai jam berapa? Maaf, di hotel ini makan pagi sampai jam berapa? En français, désolé, à cet hôtel jusqu'à quelle heure est le petit déjeuner? A. Di sini Anda bisa makan pagi sampai jam 10 pagi. Di sini Anda bisa makan pagi sampai jam 10 pagi. En français, ici vous pouvez manger le petit déjeuner jusqu'à 10 heures. B. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. B. Kalau begitu, saya akan sarapan setelah berenang. Kalau begitu, saya akan sarapan setelah berenang. En français, donc je vais prendre le petit déjeuner après avoir nagé. Bon, chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. Au revoir.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter des musiques indonésiennes. Et cette fois-ci, nous avons sélectionné des chansons kroncong, c'est-à-dire le rythme kroncong, qui est très connu en Indonésie depuis 19e siècle. Et pour ce soir, on vous présente le chanteur Mus Mulyadi. Vous savez, Mus Mulyadi, il est né à Surabaya, Java Est, le 14 août 1945, et connu comme le roi de Kroncong. Quelques chansons qui sont célèbres, entre autres, Kota Solo, Tinda Bestari, Telomoyo, et Jembatan Merah. Bon, chers auditeurs, maintenant, nous allons écouter une chanson de Mus Mulyadi intitulée Dewi Murni. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs de la voix de l'Indonésie entière, vous avez Mus Mulyadi. Avant, il a commencé sa carrière en tant que musicien. Il a été instructeur de la bande de Irama Puspita. Alors, il a changé le nom d'Ara Puspita. Il a fondé aussi un groupe de musique Arista Birawa en 1964. En 1965, avec Arista Birawa, il a sorti un album qui a été produit par Demeter Records. Avec ses trois amis, il habite à Singapour en 1967. Dans ce pays, il a créé 10 chansons, entre autres Sedetik de Belai Kasih, Jumpa dan Bahagia. Et vous savez, en 1969, il a offert ses chansons à Live Recording à Jurong. En 1971, Mus Mulyadi et ses trois collègues ont été revenus en Indonésie et enregistré des chansons à Ramako. Vous savez, Ramako est très connu comme la compagnie de musique aux années 70. Et vous avez fait accompagné par le groupe de musique Arianto et finalement, il a formé le groupe Favorite Band, dirigé par son ami Arianto. Avec le groupe Favorite Band, il a créé beaucoup de chansons. Ensuite, il a commencé à chanter des chansons pop croncong, entre autres Croncong Dewi Murni. Après avoir tenu un show dans quelques pays tels que les Pays-Bas et les États-Unis, il est connu comme le roi de croncong. Chers auditeurs, auditrices, écoutez donc encore la chanson de Mus Mulyadi intitulée Kota Solo ou bien La Ville de Solo. Bonne écoute.
Kesenian asli
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons de Kroncong de la voix de l'Indonésie. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.